La trêve ou la grève, voici résumé la nouvelle bataille dans la bataille contre la réforme des retraites où quand gouvernement et syndicats se renvoient désormais la responsabilité d'une possible annulation du réveillon de Noël pour nombre de Français, faute de transport, invité de la rédaction. Dans une dizaine de minutes, Fanny Arabe, économiste urbaniste et représentante UNSA au conseil d'administration de SNCF Réseau. Enfin, alors que la sortie de crise s'annonce donc difficile, le négociateur en chef, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, reste lui fragilisé après la révélation de 13 mandats non déclarés. Comment relancer le processus de dialogue avec la Corée du Nord? L'émissaire américain est arrivé hier à Séoul après que Pyongyang a menacé les États-Unis de recommencer ses provocations si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin de l'année. Enfin, en dépit de son slogan, il est temps d'agir. La conférence climat de l'ONU qui s'est achevée à Madrid n'aura de toute évidence pas été la hauteur de l'urgence avec un accord à minima. Les textes adoptés hier ne reflètent en rien cette demande aujourd'hui d'action à la fois radicale et immédiate. À quelques jours des fêtes de fin d'année, c'est donc encore une semaine à très haut risque qui s'ouvre ce lundi pour le gouvernement à la veille d'une nouvelle manifestation nationale prévue demain. Et surtout alors qu'aucun compromis en vue sur la réforme des retraites ne semble de nature à permettre de sortir du blocage, notamment dans les transports. Aujourd'hui encore, le trafic reste très perturbé. Un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10. À Paris, on compte en moyenne un train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 pour le RER B, mais uniquement aux heures de pointe. Par ailleurs, 8 lignes de métro sont actuellement fermées. Quoi qu'il en soit, la question qui occupe désormais tous les esprits pourrait se résumer ainsi. Y aura-t-il des trains à Noël? Tout le week-end, gouvernement et syndicats se sont renvoyés la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes, chacun accusant l'autre de chantage. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas la première fois, s'agissant de cette période sacrée de Noël, que la question d'une possible trêve des confiseurs est posée. C'est vrai que le risque existe pour les partenaires sociaux les plus jusqu'au boutistes de voir les Français se retourner contre eux. De son côté, le gouvernement l'a bien compris, lui qui mise aujourd'hui sur cette fameuse bataille de l'opinion. Toujours est-il, Anne-Laure, que ce matin, le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui sera dans la rue demain pour manifester contre la réforme, a lui choisi d'appeler à la trêve.
Oui, sur le fond, le secrétaire général de la CFDT reste droit dans ses bottes et continue de réclamer le retrait de l'âge d'équilibre. Mais sur la forme, les modes d'action, il réclame en effet une pause pour les fêtes. Laurent Berger s'en expliquait ce matin chez nos confrères de France Info.
Notre pays, il est suffisamment sous tension, sous hystérisation, sous capacité d'avoir des logiques d'affrontement que j'ai dénoncé avant le 5, parce qu'on aurait pu éviter tout ça. J'avais alerté qu'il ne faut pas en rajouter et que je souhaite que les Français, les citoyens, les gens qui vivent dans notre territoire, puissent se rendre là où ils veulent pour les fêtes de Noël. Et donc, je pense qu'il faut une trêve.
Et cette position, elle tranche volontairement avec celle de la CGT, prête quant à elle à continuer la grève pendant Noël, tant qu'elle n'a pas obtenu le retrait du projet réformant les retraites. Inconcevable pour le gouvernement qui ne veut pas remettre en cause le futur système par points. L'exécutif ne joue qu'une carte aujourd'hui, celle de fissurer le front syndical en ramenant de son côté la CFDT. L'âge pivot est négociable, répètent ainsi en chœur les membres du gouvernement ces dernières heures. Une nouvelle session de concertation doit d'ailleurs s'engager cette semaine. Ce sera vraisemblablement après la journée de mobilisation de demain, même si, à l'heure où on parle, la centrale de Laurent Berger n'a pas encore reçu d'invitation formelle de la part de Matignon. Une CFDT qui apparaît aujourd'hui en position de force et qui veut d'ailleurs en profiter pour obtenir des avancées sur d'autres sujets comme la pénibilité. Position en trompe-l'œil tout de même, car elle n'a pas la main, bien sûr, sur les syndicats opposés à la réforme. La CGT et Sud, très mobilisés dans les transports.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors si la journée de demain s'annonce décisive, puisque rappelons-le, c'est bien l'ensemble des syndicats qui appellent désormais à la grève et à la manifestation, y compris donc les organisations réformistes. En attendant, ce lundi s'annonce lui comme une nouvelle journée noire dans le quotidien. Chahuté de millions de Français, puisqu'en plus des grèves dans les transports publics et des embouteillages en pagaille, il faudra aussi compter avec des opérations escargots et des blocages des routiers. Et puis à cela s'ajoute désormais le risque à terme de possible pénurie d'essence, puisque plusieurs raffineries sont toujours touchées aujourd'hui par un mouvement de grève dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime et la Loire-Atlantique. Enfin, à la question donc de savoir s'il y aura non pas de la neige mais des trains à Noël, on pourrait sans doute encore en ajouter une autre. Le père de la réforme sera-t-il lui toujours en fonction? Ou dit autrement, Jean-Paul Delevoye va-t-il devoir démissionner après les révélations en cascade sur ses ses multiples casquettes, bénévole, mais également rémunéré, c'est-à-dire en totale contradiction avec les règles de la transparence de la vie publique. Seule certitude, les cheminots en grève n'auront pas été déçus d'apprendre ce week-end que le haut commissaire, qui plaide donc pour la suppression de leur régime spécial, siège à la fondation SNCF pour le mécénat de la compagnie ferroviaire. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors, malgré ces révélations embarrassantes, le Premier ministre a estimé samedi que Jean-Paul Delevoye était, je cite, « d'une bonne foi totale », manière Rosalie de lui renouveler son soutien. Reste à savoir pour combien de temps encore.
Oui, une éviction là tout de suite, pas facile à gérer pour un exécutif qui s'attelle à défendre sa réforme des retraites. Même si c'est aujourd'hui Édouard Philippe qui a la main sur le dossier, c'est Jean-Paul Delevoye qui l'a construit, porté. Devoir le sortir clairement, ça ferait tâche et le gouvernement tente de démontrer qu'il n'en est pas question, comme ici avec le ministre Julien de Normandie sur France Info.
Il a fait une erreur, mais je crois que ce qui est important quand on fait une erreur, c'est de le reconnaître, ce qu'il a fait, et puis de les corriger, ce qu'il a fait également immédiatement. Derrière tout ça, il n'y a aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit de la part de Jean-Paul Delevoye. Je ne doute pas du tout de sa bonne foi.
Le Premier ministre non plus officiellement, mais entre les deux hommes, les relations sont tendues et cette ombre au tableau, ces ombres ne doivent pas ravir Édouard Philippe. Peu importe, pour l'instant, il faut sauver le soldat Delevoye, quitte à dénoncer une instrumentalisation. C'est ce qu'a fait la ministre Elisabeth Borne ce matin sur France 2.
Moi, je crois que la ficelle est un peu grosse. Hein. On voit bien
Pourquoi
que certains voudraient le fragiliser. C'est quelqu'un qui travaille, qui négocie avec les syndicats, je pense, qui a leur confiance. Et donc, il a fait des erreurs, il va les corriger. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un de droit.
Malgré tout, les rumeurs d'un départ imminent vont bon train. Mais selon un conseiller ministériel, le haut-commissaire ne devrait vraiment pas partir tout de suite. D'abord parce qu'il est globalement respecté au sein des oppositions politiques et chez les syndicats. Mais avant tout parce que ce n'est pas le moment. La question n'est visiblement plus de savoir s'il faut maintenir Jean-Paul Delevoye dans le gouvernement, mais plutôt de déterminer quand il faut l'en sortir.
Merci Rosalie Lafarge. Et pour continuer donc d'évoquer cette réforme des retraites, invitée de la rédaction aujourd'hui, Fanny Arave, économiste et urbaniste spécialisée dans les transports, mais également administratrice UNSA Ferroviaire SNCF Réseau. Bonjour madame.
Bonjour.
Toujours à m'écouter pour vous interroger. Anne-Laure Jumet, une première question. Madame Arave, compte tenu donc des révélations de ce week-end, jugez-vous que Jean-Paul Delevoye devrait démissionner?
Écoutez, j'ai pas à me prononcer sur sa démission ou pas sa démission, mais clairement ça le fragilise. Ça le fragilise, mais en termes peut-être un peu plus global que par rapport au sujet des retraites, c'est la question de la déontologie qui est posée. Et cette question de mélange des genres, de conflit d'intérêts, il est là explosif, on va dire, mais c'est un sujet que l'on rencontre assez régulièrement. Et c'est un problème d'équité. Et c'est là où peut-être qu'il y a une résonance avec cette réforme des retraites qui est faite au nom de l'équité. Mais là, au nom de l'équité, quelqu'un qui est au RSA et qui prend un chèque de sa grand-mère ou d'une sœur de 50 euros, si jamais elle ne l'a pas déclaré, elle est pénalisée, et parce qu'il y a une obligation de le déclarer, c'est enlevé de son RSA. Donc, voilà, c'est le problème d'équité et le problème déontologique qui est porté là et qui, effectivement, fait un peu tâche.
Question d'Anne-Laure Jumet.
Fanny Arave, est-ce que vous appelez, vous, à l'UNSA, comme à la CFDT, à la trêve pour les fêtes de Noël? Est-ce que vous considérez que c'est effectivement un moment où les Français peuvent avoir une pause pour ces congés?
Nous n'avons pas demandé cette réforme. Nous n'avons pas choisi le calendrier. L'UNSA, via l'UNSA RATP, avait posé la journée du 5 décembre, il y a plus de 2 mois en avance. Donc, jouer ce calendrier-là était peut-être un choix un peu pervers, un peu manichéen, mais de jouer avec l'opinion publique. Et on se voit que finalement, ça n'a pas totalement abouti, même si on est à cette crispation-là. On n'a pas pour objectif d'être en grève à Noël. C'est pas un but en soi d'être en grève à Noël. Nous souhaitions avoir justement suffisamment de réponses, de vraies négociations pour ne pas être en grève. La grève, c'est véritablement l'échec de la négociation. Donc cette situation-là, elle est pénible, elle est détestable pour tout le monde, cheminots compris.
Donc pas de trêve, mais vous dites, on n'a pas vocation effectivement à faire durer le mouvement.
On n'a pas vocation à faire durer le mouvement, mais si on n'a pas de solution, le mouvement continuera. Parce qu'il faut être lucide. La trêve, ça signifie insidieusement la fin de la grève. Vous connaissez beaucoup de mouvements qui rejaillissent après une semaine d'interruption.
Donc la CFDT a tort d'appeler à la trêve, c'est...
Elle fait ses choix. Je pense que chacun voit ce qu'il où il en est dans ses négociations, dans ses discussions, et que par rapport à ses propres lignes rouges, fameuses lignes rouges, comment elles se situent. Donc peut-être nous ne sommes pas dans exactement ces perspectives-là. Nous ne souhaitons pas, personne ne souhaite, effectivement, les cheminots ont également des familles à rejoindre. Enfin, cette situation est gênante pour tout le monde. Ça pose véritablement l'enjeu aussi du ferroviaire. On parle beaucoup des grèves de Noël. Finalement, toutes ces personnes qui sont bloquées dans le RER A ou ailleurs, on en parle un petit peu moins, de manière plus épisodique. Ça pose toute la problématique des transports. Moi, je trouve important qu'on se repositionne aussi quand on voit justement dès qu'il y a un grain de sable, là on parle des grèves, et même quand il y a un problème de réseau qui est vieillissant, qui est insuffisant, et qu'il y ait moins de grains de sable pose autant de problèmes, j'aimerais qu'on ait cette même attention sur les voyages des personnes qui habitent de plus en plus loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger en région parisienne, proche. Ouais.
Revenons à la réforme. En indiquant que la future réforme s'appliquerait à 17 ans de la retraite, le Premier ministre a quand même ménagé une transition plus longue pour les cheminots. Pour les conducteurs notamment, ça veut dire qu'elle ne s'appliquerait qu'à la génération 1985. Est-ce que ça n'est pas suffisant?
Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le fameux âge pivot renommé.
On va y revenir. Mais déjà sur les
conducteurs. Qui touche également, dès maintenant, dès dans deux ans, en fait, tout le monde. Donc, également
les... C'est aussi une rouge, comme pour la CFDT.
Disons que c'est une inflexion très très forte de la réforme. Nous, à l'UNSA, on n'était pas demandeurs d'une réforme à point, mais on nous présente des avancées sur certains sujets. On s'est dit, regardons, soyons pas bloqués, regardons s'il peut y avoir des avancées pour les femmes, les carrières hachées, le plus pensionné, pourquoi pas, regardons. Mais au nom d'une réforme véritablement systémique, on reprend tout, on essaye de voir ça. Là, l'âge pivot, ça marque quand même le saut d'une réforme paramétrique, donc de réduction budgétaire, de contrôle budgétaire très très fort. Donc ça change quand même fondamentalement le sens également de la réforme.
Donc si on s'en était tenu à la génération 85 pour les conducteurs, vous auriez pu dire « ok, c'est bon », si on n'avait pas eu l'âge pivot.
Non, c'est pas seulement... Bon, là, ça, juste une inflexion générale, de manière plus précise, on n'a rien sur la période de transition. Pour les régimes généraux, il y a une période de transition qui a été un petit peu avancée, un petit peu décrite. Il n'y a strictement rien, effectivement, pour les régimes spéciaux. C'est renvoyé à des négociations d'entreprises. Quand on sait que toutes les entreprises publiques ou parapubliques ont comme objectif des réductions de masse salariale, il y a des problèmes, des problématiques de compensation.
Quand vous parlez de transition, c'est-à-dire combien de droits acquis j'ai au moment où je rentre dans la réforme, c'est ça ?
Les droits acquis et surtout... Une situation que l'on retrouve avec les enseignants, également le médical, etc., c'est que, un bon nombre de fonctionnaires, notamment dans la territoriale, c'est qu'on a des niveaux de salaire beaucoup plus faibles que dans le privé, avec un système de base de calcul pour les retraites beaucoup plus étroite. Absolument, il faut une revalorisation.
Comme pour les enseignants.
On est exactement dans la même situation, donc un salaire de départ très bas, des courbes, une tendance assez faible, et à qualification égale, des rémunérations beaucoup plus basses que dans le privé. Nous, on le voit en ce moment, on a des démissions donc à réseau, partent pour 30% plus cher, enfin de rémunération supplémentaire, voire même 50% pour des spécialistes, pour des projets techniques un peu compliqués. Donc on a des rémunérations qui sont plus faibles et surtout un système de rémunération avec une assiette de cotisation sur la partie de salaire sur laquelle est cotisé pour la retraite qui est beaucoup plus faible parce que tous les éléments spécifiques au métier, etc. sont considérés comme des primes, donc ne sont pas pris en compte. Donc on a quelque chose de très faible.
Si je résume, il faut revaloriser les salaires des cheminots, il faut mettre fin à l'âge d'équilibre. Il faut plus de concertation, évidemment. Vous avez un rendez-vous avec le Premier ministre et la pénibilité. Vous avez un rendez-vous cette semaine avec le Premier ministre ?
Alors, je ne suis pas au courant d'une réunion. Je sais qu'il y a une réunion formelle qui va se faire mercredi.
Donc, au lendemain de la journée de mobilité.
Au lendemain de la journée de mobilité. Mais après, de points plus particuliers de travail, véritablement, pour l'instant, on n'a pas véritablement. On a des points de contact, il y a des points d'échange, mais pas véritablement de points de travail.
Merci Fanny Arave, administratrice UNSA, je le rappelle, ferroviaire, donc à SNCF Réseau, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet. Quand le triomphe du populisme de la droite nationaliste conduit à de violents heurts en Inde depuis l'adoption, c'était la semaine dernière d'une loi controversée qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés des pays voisins à la condition qu'ils ne soient pas musulmans. Eh bien, les manifestations se sont étendues depuis hier soir à plusieurs campus du pays. Un peu plus tôt dans la journée à New Delhi, contestataires et policiers s'étaient affrontés au sein de l'une des universités les plus prestigieuses du pays où la population étudiante est majoritairement musulmane. Les forces de l'ordre ont notamment tiré des gaz lacrymogènes et chargé la foule à coups de bâtons sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrent des scènes de chaos à l'intérieur même des bâtiments de l'université avec des étudiants ensanglantés. C'est donc en solidarité avec ces élèves que des étudiants ont commencé à défiler hier soir dans de très nombreuses autres universités. Tous dénoncent la volonté du pouvoir nationaliste de marginaliser la minorité musulmane, une discrimination contraire à la Constitution mais aussi aux traditions séculaires indiennes. Les explications de notre correspondant Sébastien Farsi.
L'atmosphère est à la révolte sur l'esplanade de Jantar Mantar au centre de New Delhi. La loi sur la citoyenneté impose pour la première fois des critères religieux dans l'obtention de la nationalité en excluant les musulmans. Mohamed Khan est étudiant.
Cela ressemble tellement aux lois qui avaient été adoptées en Allemagne. Ils nous oppriment, nous les musulmans. Mais ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront nous tuer. Nous ne partirons pas d'Inde. En 1947, lors de l'indépendance, nous aurions pu partir vivre au Pakistan. Mais nous avons choisi l'Inde, donc c'est mon pays.
En Assam, dans le nord-est de l'Inde, le gouvernement hindouiste local affirme qu'il pourrait maintenant régulariser 500 000 hindous et expulser les musulmans. Les habitants, comme Devarshit Das, sont révoltés.
Dans 10 ans, il n'y aura plus d'Assam. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Ils sont en train de lancer une purification religieuse de notre État, mais nous refusons. Ce n'est pas parce qu'une personne est hindoue qu'elle doit devenir indienne.
Plusieurs gouvernements régionaux tenus par l'opposition ont déjà annoncé qu'ils allaient refuser d'appliquer cette loi discriminatoire.
Voilà, reportage à New Delhi, signé Sébastien Farsi. Au Liban, les consultations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre prévues pour reprendre ce matin ont à nouveau été reportées. Il faut dire que si la désignation de Saad Hariri, lequel avait pourtant démissionné fin octobre sous la pression de la rue, semble pratiquement acquise, en revanche, la configuration de la nouvelle équipe ministérielle apparaît beaucoup plus incertaine. C'est véritablement à ce niveau-là que le bras de fer est aujourd'hui engagé entre d'un côté donc le Premier ministre sortant, candidat à sa propre succession, et puis de l'autre, le tandem formé par le groupe chiite du Hezbollah et la formation du président chrétien Michel Aoun, déjà majoritaire à la Chambre mais qui n'entendent pas lâcher prise au niveau de l'exécutif. À ce titre d'ailleurs, l'éruption de violence samedi soir au centre-ville de la capitale n'est sans doute pas totalement étrangère à cette nouvelle épreuve de force engagée donc autour de la nature du prochain gouvernement. Les précisions à Beyrouth de notre correspondant Aurélien Colli.
Report des consultations afin de pouvoir mener davantage de tractations pour former le gouvernement selon un communiqué laconique de la présidence libanaise. Report à la demande de Saad Hariri, Premier ministre sortant mais néanmoins pressenti pour présider un nouveau cabinet puisque le poste revient traditionnellement à un sunnite, puisqu'il a habilement éliminé ses concurrents potentiels ces dernières semaines et puisque même son adversaire chiite, le puissant Hezbollah proche de l'Iran, soutient sa nomination. Mais deux questions ne sont pas réglées pour autant. La première, c'est la forme de ce nouveau gouvernement. Depuis la démission de Saad Hariri fin octobre, la rue libanaise réclame une équipe d'experts indépendants des partis traditionnels avec des pouvoirs exceptionnels pour faire face à la crise que traverse le pays. Saad Hariri s'est dit prêt à diriger un tel cabinet, mais le chef de l'État, le chrétien Michel Aoun, et ses alliés chiites du Hezbollah et du mouvement Hamal insistent encore pour que le gouvernement soit technopolitique, avec donc une dose de représentation des partis traditionnels. Seconde question, la rue, elle réclame depuis 2 mois le départ de tous les caciques qui se partagent le pouvoir et le gâteau depuis la fin de la guerre civile. Or, Saad Hariri en fait partie, il n'est donc pas sa solution. Résultat, un double bras de fer qui s'est joué aussi dans la rue ce week-end avec les affrontements entre sympathisants des grands partis chiites, forces de l'ordre et manifestants de la contestation.
La Tunisie ne parvient toujours pas, elle non plus, à accoucher d'un nouveau gouvernement et pour cause, la multitude de partis au Parlement peine à s'entendre pour former une coalition. C'est ainsi qu'hier, le premier délai d'un mois renouvelable une fois pour former une nouvelle équipe dirigeante a expiré, ce qui signifie que l'homme désigné par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des dernières législatives pour diriger ce nouveau cabinet, a désormais jusqu'à la mi-janvier pour assembler une majorité parlementaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan recevait hier et pour la deuxième fois en moins d'un mois le dirigeant du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, une rencontre à huis clos qui ne figurait pas initialement sur l'agenda public du chef de l'État turc et au cours de laquelle ce dernier s'est dit prêt à déployer des troupes en Libye. Rappelons que le pays est actuellement en proie à un conflit entre d'un côté le gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par les Nations Unies et appuyé par la Turquie et le Qatar, et puis de l'autre le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, soutenu lui par l'Égypte et les Émirats arabes unis, c'est-à-dire les deux rivaux régionaux d'Ankara. Par ailleurs, sur fond de tensions croissantes entre Ankara et Washington, cette fois-ci le président Erdogan a menacé hier de fermer 2 bases militaires stratégiques utilisées par les États-Unis en Turquie. Il faut dire que les points d'achoppement entre les deux pays sont multiples aujourd'hui, qu'il s'agisse du vote par le Sénat américain d'une résolution reconnaissant le génocide arménien par les Ottomans, mais aussi de l'offensive lancée par Ankara et en Syrie contre une milice kurde soutenue par Washington. Enfin, la Turquie est aujourd'hui exposée à des mesures punitives de l'administration américaine pour avoir acheté des systèmes de défense russes. Boris Johnson entend mettre son équipe en ordre de bataille en vue de commencer dès cette semaine à lever les obstacles au Brexit. Le dirigeant conservateur doit annoncer aujourd'hui son gouvernement remanié. Il doit également s'adresser cet après-midi aux 109 députés Tories nouvellement élus pour les exhorter à mettre en œuvre le Brexit. Donc enfin jeudi, il devrait décliner son programme législatif lors du traditionnel discours lu par la reine. J'ajoute que fort de sa très large victoire aux législatives, le Premier ministre a par ailleurs exclu d'offrir à l'Écosse un deuxième référendum sur l'indépendance de la région. Enfin, après presque trois ans sans gouvernement local en Irlande du Nord, unionistes et républicains qui s'y partagent le pouvoir tenteront eux aujourd'hui de renouer le dialogue avec l'espoir que le résultat des élections jeudi dernier permette enfin de débloquer la situation. Les négociations auront eu beau s'éterniser pour tenter d'éviter un échec cuisant, rien n'y a fait. Hier, la conférence climat de l'ONU s'est terminée sur un fiasco. Sans surprise, quasiment aucun des grands pays émetteurs de CO2 n'a fait d'annonce significative pour rehausser ses ambitions, ni donner de signes clairs d'une telle intention pour 2020. Ou dit autrement, après une année marquée par des catastrophes climatiques tous azimuts, les appels vibrants de millions de jeunes descendus dans la rue, mais aussi la pub publication de nouveaux rapports scientifiques toujours plus glaçants, eh bien c'est peu de dire que cette COP25 laisse un goût amer. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Le texte final appelle à des actions urgentes, mais le message n'en reste pas moins tortueux et le résultat, disons-le, carrément médiocre. Faut-il en déduire, Véronique, que s'agissant de la défense du climat, le multilatéralisme est aujourd'hui impuissant à résoudre quoi que ce soit?
Alors cette COP25 a fait ressurgir toutes les limites de l'exercice, du rendez-vous, ressurgir les mots qu'on croyait enfouis depuis l'accord de Paris. Difficulté négociée à 196 pays de gérer le climat à l'unanimité quand des climato-sceptiques, et pas des moindres, agissent à l'intérieur du système et le torpillent. États-Unis, Brésil, Australie à la manœuvre, à Madrid, et personne en face pour prendre le leadership, l'immobilier. Le cynisme ne pouvait que l'emporter. Et puis, on le savait, à peine conclu l'accord de Paris, accord reposant principalement sur la bonne volonté de chacun, on savait que cet accord portait en soi de nombreuses faiblesses, des règles d'application floues, des formules ambiguës, jugées constructives il y a 4 ans, des échappatoires dans lesquelles beaucoup se sont engouffrés à la COP25 à Madrid. Pour autant, pour Yann Verling, ambassadeur français de l'environnement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Ça reste un moment important où tous les états de la planète se retrouvent autour d'une même table pour discuter d'un même sujet, en l'occurrence l'état de la planète. Après, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Ça dépend de qui est autour de la table. Et aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui, visiblement, n'ont plus du tout envie de faire le jeu de l'intérêt général et de l'intérêt commun. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire que ça va rester comme ça durablement. D'abord, les états, les dirigeants peuvent changer. Je pense qu'il faut aussi penser à d'autres formes d'action, travailler en cercle peut-être plus restreint sur certaines actions plus précises, et on fait des coalitions entre quelques États et avec des objets bien précis, sauver telle ou telle partie de la planète ou agir sur tel ou tel sujet. Non, il ne faut pas déprimer, il ne faut pas être non plus en absence de lucidité par rapport aux limites que peuvent être les COP, mais ce n'est pas non plus la fin des haricots.
Alors ce qu'a sûrement réussi cette COP, c'est de déboucher sur une radicalisation des plus convaincus de l'urgence climatique et des plus inquiets aussi, comme les jeunes.
Merci Véronique Roberotte. Et puis on vient de l'apprendre, donc le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a fini par remettre sa démission ce matin au président de la République. Et l'on vous retrouve donc Rosalie Lafarge. Même si on l'évoquait donc tout à l'heure, Édouard Philippe avait ce week-end assuré Jean-Paul Delevoye de son soutien. On sentait bien, Rosalie, que le gouvernement finalement était dans une situation qui paraissait de plus en plus difficile à soutenir.
C'était délicat, mais selon les conseillers ministériels et plusieurs sources à l'Élysée, ce n'était pas le meilleur moment pour se retirer. Jean-Paul Delevoye on a manifestement décidé autrement. Sans doute la pression était-elle trop forte. Le haut commissaire aux retraites démissionne donc à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre son projet de réforme des retraites. Il admet, dit-il, une légèreté coupable, démission acceptée, nous dit-on, avec regret par le président de la République.
Merci Rosalie Lafarge. On termine ce journal avec un mot de météo. Le temps cet après-midi sera généralement sec sur la majeure partie du pays, même si le soleil restera souvent bien pâle derrière un épais voile d'altitude. Il continuera en revanche de pleuvoir de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. 4 départements, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et la Charente-Maritime ont par ailleurs été placés en vigilance orange en raison de crues importantes. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Anne Fauquemberg pour le prochain journal de la rédaction.